Chapitre 24. Julia Margaret Cameron. La vie afflue dans les flous. Camille n'avait rien saisi des explications de Paul, mais il fallait bien constater qu'il était parvenu à rentrer des recettes inattendues. Pour en savoir plus, elle descendit à la brocante. Mona tenait à lui raconter les événements en personne et l'entraîna dans le petit local où tout avait commencé. Voilà plusieurs mois, elle était donc tombée par hasard sur une caisse remplie de petits personnages moulés en plomb et peints. Elle avait déposé l'un d'eux dans la boutique et l'objet avait intéressé un client d'âge mûr et excentrique. Elle avait exposé des pièces supplémentaires et après quelques mois, l'amateur était revenu et avait tout raflé. Depuis, ce haut fonctionnaire à la retraite était repassé deux autres fois avec le même appétit. Et il promettait des passages réguliers pourvu qu'il y eût des réapprovisionnements de Vertuni. Camille, sans interrompre Mona, avait un air passablement las qui sous-entendait « Vous auriez pu m'en parler avant ». Paul poursuivit. Ce client, au demeurant charmant, ne posait pas de questions, fixait lui-même les prix et réglait en liquide, s'enchantait juste de ses petites effigies et les utilisait pour créer des sortes de dioramas de sa vie passée. Pour éviter la saturation, Paul et Mona étaient convenus de ne sortir qu'une douzaine de figurines à chaque fois. Mais le volume de la caisse était très appréciable. Il y en avait plus de 300. Et comme il s'agissait d'objets hors inventaire, cela faisait un potentiel de 15 000 euros, peut-être 20 000 au noir. Voyant la moue dubitative de sa mère, Mona prit des petits bonshommes et les lui montra. Un gros chef de gare, un écolier à son pupitre, un cycliste qui avait l'interminable silhouette lunaire de Monsieur Hulot. « Et donc, soupira Camille, vous ne vous êtes pas dit une seconde que moi, peut-être, je saurais d'où vient cette caisse ?»«
Ah tiens, non, » répondit Paul penaud.
« C'est vrai, ça, ma puce. On aurait pu lui demander. Disons que cela vous aurait permis d'apprendre que vous êtes en train de vendre la collection de figurines de maman. »
Maman ? Qu'est-ce que ça veut dire, maman ? C'est toi ?
Non, je veux dire ma mère à moi, Colette. Un silence s'installa, tandis que Camille hochait la tête. Mais l'incongruité de la situation finit par détendre son expression. Elle eut un sourire triste mais sincère. À la mort de Colette Vuhumain, la mère d'Henri et la grand-mère de Mona, il avait fallu disperser certaines affaires. Henri avait demandé à Camille de récupérer ses figurines, de les nicher quelque part et de les oublier. Mais les voilà qui étaient remontées à la surface. Mona eut alors le sentiment honteux d'avoir fait une bêtise irréversible. Camille le sentit immédiatement et l'enlaça sans même que la petite ait le temps de fondre en larmes.
« Maman, je suis désolée, »
murmura Mona.
« Arrête, ça n'a pas d'importance. »
Elle aurait été très heureuse que ces machins circulent de main en main. Cette histoire l'aurait même fait rire. Allez, c'est très bien comme ça.
Oh, maman, dis-moi un peu.
En revanche, Mona, l'interrompit Camille en reprenant son air fâché, ne me demande pas de parler de ta grand-mère. Ce n'est pas le moment. Sur l'esplanade du musée d'Orsay, sitôt que le soleil y mettait du sien, les flâneurs s'attardaient volontiers auprès de la statue du rhinocéros à la peau plissée signée Alfred Jacquemart. Ce mercredi-là, il y avait justement devant le pachyderme deux jeunes gens qui cherchaient à capter leur propre image avec l'objectif de leur téléphone. Mona les reconnut. C'étaient les amoureux du Louvre, avec qui son grand-père avait bavardé au hasard des visites. Elle courut vers eux pour leur offrir son aide. Mona et Henri furent accueillis avec des « C'est pas croyable, chaleureux !» Après que l'enfant se fut appliqué à attraper d'un clic l'image du couple, le jeune homme et sa compagne insistèrent à leur tour pour les immortaliser tous deux. Mona et son dadé, autour duquel elle sautillait à s'en brûler les chevilles. Henri la hissa sur ses épaules et la petite brandit les bras. Ils formèrent ensemble une tour humaine brinque-ballante qui culminait à plus de 3 mètres. Dans leur dos scintillait l'onde heureuse de la Seine, la pierre jaunie du pont royal, et le souvenir, déjà lointain à l'échelle d'un enfant, de l'aile de nom du Louvre. La photographie était superbe et l'entrée en matière idéale avant la leçon du jour qui devait précisément porter sur un cliché de 1872 par Julia Margaret Cameron. C'était juste une figure de femme, cadrée sur le haut du corps jusqu'aux épaules, en noir et blanc. Le noir, c'était notamment la masse sombre de l'habit dont aucun détail ne ressortait, et l'arrière-plan. Le blanc, c'était dans cet arrière-plan, la constellation d'une vingtaine de volants étincelants, manifestement des fleurs et des feuilles, et surtout le grand cou sur lequel trônait un visage ovale presque parfait. La tête avait imperceptiblement basculé en arrière. Le menton était dressé de sorte qu'on pouvait avoir le sentiment d'une infime contre-plongée, conférant maintien et noblesse au modèle. Les traits doux et réguliers étaient particulièrement rythmés par des courbes. De haut en bas, on notait l'arrondi des cheveux clairs, fendu d'une raie et cerclé d'un fin bonnet qui les maintenait en arrière. Les arcs des sourcils, des très grandes paupières bombées, presque dodues, des yeux d'une rondeur parfaite, et puis entre un nez lui-même assez rond et un menton fort, l'ourlet des lèvres. Cette femme ne souriait pas, et pourtant quelque chose de lumineux se dégageait de la combinaison entre un regard très ouvert et la bouche gracile, marqué dans sa partie inférieure par un reflet semblable à une touche de peinture. Reste que l'humeur du modèle, sans être neutre, n'était pas non plus réductible à une désignation figée. Joie, mélancolie ou lassitude, on y projetait ce que l'on voulait. La facture générale était à la fois légèrement granuleuse et comme ouatée par un flou discret. Regarder ce visage fut pour Mona un effort plus pénible que d'examiner une peinture, car sa contemplation ne pouvait pas se perdre dans un détail ou un coup de pinceau. L'enfant n'en trouvait pas moins Mrs. Duckworth particulièrement belle, par sa façon de se détacher tout en délicatesse de l'arrière-plan végétal qui semblait lui fournir une grande couronne fleurie. « Ça, Dadé, c'est sûr, c'est autre chose qu'une photo de téléphone portable. »
« Bien observé, Mona, » ironisa Henri. « Mais tu peinerais à imaginer les heures, voire les journées qu'il fallait à Julia Margaret Cameron pour ne prendre qu'un seul cliché. Au XIXe siècle, c'était une prouesse où il fallait maîtriser les lois de l'optique et de la chimie. » Et Henri se lança dans une longue explication sur l'histoire de la photographie. Il raconta à Mona comment, vers 1826-1827, le français Nicéphore Niépce réalisa l'extraordinaire exploit, à l'aide d'une caméra obscura, d'enregistrer et de stabiliser sur un support l'image du paysage vu depuis sa fenêtre. Il lui raconta le passage de témoin entre Niépce, mort prématurément et dans l'anonymat, et Louis Daguerre, dont le daguerréotype permettait d'avoir un rendu précis de la réalité avec ses creux et ses pleins, ses reliefs, ses aspérités. Henri ajouta que Daguerre eut la présence d'esprit de déposer très tôt un brevet, dès 1839, ce qui fit de lui le père de l'invention de la photographie. Mais il n'aimait pas sa façon d'avoir laissé Niépce dans l'ombre, et il considérait par ailleurs avec beaucoup d'admiration un autre acteur de cette aventure, l'anglais William Henry Fox Talbot. Car celui-ci, une poignée de semaines après que Daguerre eut officialisé son procédé, proposa une méthode alternative qui jouissait d'un double avantage. Alors que le daguerréotype immortalisait l'image sur une surface rigide, le calotype de Talbot la fixait sur du papier et surtout permettait d'obtenir un négatif, grâce auquel il était possible de multiplier les tirages à partir d'une seule source, alors qu'un daguerréotype est forcément unique, et d'en moduler les contrastes ou l'intensité. Mona écoutait, aussi perdu que fasciné. Ah, Mona, exulta Henri, quelle femme enfin que cette Julia Margaret Cameron. Fille d'un gentleman mort d'alcoolisme, elle hérita de son père une indomptable vitalité. Elle était d'un humour ravageur, intelligente, sensible et cultivée, familière des plus éminents écrivains et philosophes de la société anglaise de l'époque. Cette société, c'était celle de la reine Victoria, dont les mœurs rigides et les conventions la condamnèrent à un certain désœuvrement quand son mari partit travailler dans de lointaines colonies du royaume et que ses enfants quittèrent le foyer. Elle reçut alors en cadeau,
en 1863, un appareil photographique et se consacra avec une énergie prodigieuse à en expérimenter tout le potentiel. Car c'était alors une machinerie horriblement complexe. Elle avait entre autres reconverti sa réserve à charbon et son poulailler en véritable studio. Surtout, elle adopta une méthode qui lui offrait des négatifs d'une finesse irréprochable et une très belle gamme de gris. Vois notamment toutes ces ombres sur le visage, les nuances de l'iris autour de la pupille et l'arc des lèvres. Cette méthode, c'est celle du collodion humide.
Encore un mot beaucoup trop compliqué pour moi, Dadé.
Peut-être, mais ça l'est moins que de retenir les innombrables opérations chimiques afin de parvenir à ce résultat. Pour une unique photographie réussie, il y avait une centaine d'échecs. Au fond, c'est comme si à l'époque, c'était plus facile de faire un tableau qu'une photo, alors qu'aujourd'hui, on dirait que c'est l'inverse. Henri n'avait jamais pensé en un tel raccourci la rivalité entre ces deux médiums, mais cette remarque lui donna l'occasion de parler à Mona du grand débat du XIXe siècle. Fallait-il voir en la photographie une technique ou un art? L'enfant, sourcil froncé, sentit que son grand-père allait à nouveau partir dans des explications très pointues et elle se concentra de toutes ses forces. « Vois-tu, Mona, du temps de Julia Margaret Cameron, nombreux étaient ceux pour qui la photographie était certes une technique révolutionnaire, mais seulement une simple opération mécanique. L'intervention de la main et de l'esprit humain y était, soi-disant, trop limitée et aboutissait à une image correspondant servilement à la réalité, incapable de s'élever vers une quelconque forme d'idéalisation. Le poète Charles Baudelaire prétendait même que la photographie tuerait l'imagination. Mais Julia Margaret Cameron crut pour sa part qu'elle pouvait rivaliser avec la peinture. Dans nombre de ses œuvres, elle élabore des petites fictions mythologiques, des allégories qui rappellent la peinture anglaise de son époque, qu'on appelait pré-raphaélite, très inspirée du théâtre de Shakespeare et de la littérature victorienne, une peinture riche en jeunes filles rêveuses se confondant avec des fleurs. Et même si ce cliché de Mrs. Duckworth est un portrait, et seulement un portrait, les pétales et les végétaux qui encadrent le visage tendre, songeur et diaphane du modèle s'inscrivent dans cette mouvance. « Je veux bien que ce soit de la peinture, Dadé, mais elle doit faire sans les couleurs. » C'est un point capital. Comme il manque à Julia Margaret Cameron et à tous les premiers photographes de l'histoire, cet outil essentiel. Elle va, en plus de la composition, considérablement soigner ses lumières et travailler la netteté au moment de la prise de vue puis du tirage. Pourtant, elle est floue, la photo. Je me suis mal exprimé. J'aurais dû dire qu'elle travaille le manque de netteté. Il lui fallait un environnement irréprochable, une préparation parfaite du matériel, en particulier des plaques qu'elle mouillait de collodion afin qu'elle capte la lumière. Il fallait aussi que ces modèles s'abstiennent de bouger pendant des temps de pause qui duraient de longues secondes. Le moindre accident dans ces étapes créait du tremblement et estompait les formes. Mais justement, ces accidents, en quelques occasions, lui plurent et allouaient au sujet une beauté et une expressivité beaucoup plus personnelles qu'un simple enregistrement du réel. Alors elle s'attela, non à corriger, mais à maîtriser les accidents. « Et je suis sûr que tu vas me dire qu'on détestait ces photos à l'époque. » N'exagérons pas, mais disons que, dans les cercles d'experts et de praticiens, on retenait surtout que Cameron manquait de rigueur dans sa mise au point. Cette critique la blessa, mais elle persista. Et par les mouvements infinitésimaux du visage de Mrs. Duckworth, par un minuscule soulèvement de l'air peut-être, par un temps de développement interrompu très légèrement en avance, voilà que se délaient les contours. S'amplifie alors le grisé du regard, la masse des cheveux et le bonnet qui les couvre, les pommettes et les joues, et la constellation de fleurs autour du modèle. Le flouté de cette photographie est pareil à la réverbération d'une musique dans une cathédrale. Ce qui s'y perd de précision gagne en profondeur et en lyrisme.
Oui, mais cette photo, peut-être qu'elle aurait été aussi belle et même plus belle si elle avait été nette.
À mon avis, si le portrait de Mrs. Duckworth avait été d'une impeccable précision, il se serait découpé en arêtes tranchantes qui en auraient limité la puissance d'enchantement. Là, il est comme enveloppé d'une aura surnaturelle qui dévoile l'âme du modèle. Les Anglais ont cette belle expression « bigger than life ». C'est ce que nous dit cette photographie. Dans le flou, afflue quelque chose de plus grand que la vie. Cameron meurt en 1879, sans avoir le temps de voir naître, dans les décennies suivantes, le mouvement qui va vraiment consacrer la photographie artistique, qui joue sur la suggestion davantage que sur l'exactitude. On l'appellera le pictorialisme, du latin pictor, qui avait d'abord donné le mot peintre, comme si les photographes étaient devenus peintres, à leur manière.
Daddy, tu as oublié de me dire qui était la dame sur la photo, Mrs. Duckworth.
Elle s'appelait originellement Julia Jackson. C'était la nièce et la filleule adorée de Julia Margaret Cameron. Comme elle était d'une extraordinaire beauté, elle posa souvent pour les plus grands peintres de l'époque. Et elle devint la mère d'une romancière qui, au XXe siècle, eut la fière idée d'exhumer et de publier les prises de vue complètement oubliées de Julia Margaret Cameron, qui était donc sa grand-tante. Sans le concours de cette femme, nous n'aurions jamais eu l'occasion de contempler cette Joconde de la photographie.
Et comment s'appelait cette romancière ?
Elle s'appelait Virginia Woolf. Virginia Woolf. La douceur de ce nom si liquide, épousant le mouvement d'une vague, s'amalgama dans l'esprit de Mona avec la prodigieuse aménité de l'œuvre, quand l'enfant s'alarma soudain.
« Tout à l'heure, on a complètement oublié de donner notre adresse pour recevoir la photo de moi sur tes épaules. »
« C'était vrai, » constata Henri. Comment un acte manqué si fâcheux avait-il pu se produire ? Les mots pour rassurer sa petite fille lui manquaient. Le visage de celle-ci s'était assombri. L'idée que se perde le cliché solaire de son grand-père, la juchant sur son dos, lui était tout bonnement intolérable.